Le plus malin est de quitter ce continent où la folie rôde. J'entre au vrai royaume des enfants de Cham. Rimbaud.
Pour moi, Rimbaud, c'est un peu ça. C'est cette étoile filante qui est arrivée chez nous, qui a chu chez nous et qui s'est tue aussi chez nous. Donc ça nous interroge profondément.
Rimbaud, le roman de Harare. Un documentaire produit et réalisé par Jean-Michel Djian et Charles Trou.
Le mythe surgit devant cette façon d'être qui est d'être poétiquement silencieux.
Tout semble avoir été dit sur Arthur, tout. Alors pourquoi s'acharner sur son œuvre, son mythe ? Que reste-t-il à découvrir qu'on ne sache pas de ces 37 années de vie qui nous poursuivent encore de son mystère ? Rien. Sauf peut-être le sentiment diffus, impalpable, implacable même, que Rimbaud c'est nous, le génie en moins. Des êtres éprouvés, pressés, mais qui souhaitent rêver, s'encanailler, fuir. Qui veulent aimer, blasphémer, s'enhardir, rigoler, créer, jouir, gagner de l'argent et puis s'abandonner. Arthur n'est rien d'autre qu'un adolescent éternel, réel, universel, et qui décide un jour d'être bien plus encore qu'un poète, un autre.
Cette saison en enfer sera-t-elle désormais celle de Rimbaud pour toujours ? Non. Et c'est l'étrange de cette vie du plus étrange des poètes. Son œuvre est finie. Il n'écrira plus. Plus jamais. Il a 19 ans. Oui, 19 ans. Il court le monde. Le bateau ivre, c'est lui. Mais un bateau qui, curieusement, a les pieds attachés à la terre. Allemagne, Italie, île de la Sonde, Angleterre, Belgique, Hollande, Suède, Égypte. Ce qu'il cherche, ce n'est plus l'absolu, c'est une situation. Il la trouvera à Aden, où il deviendra l'agent d'une maison d'exportation. Est-ce au moins l'aventure ? Pas même.
En 1880, il a 27 ans.
Alain Borer.
Il arrive à Aden. Vous voyez Aden en face, bleuissent au loin les grandes montagnes d'Abyssinie. Avant, on marquait Ubi Rugiunt Leones. Ici, rugissent les lions. Là, c'est pas le réel. C'est quelque chose qui est absolument fondamental chez Rimbaud tout le temps, qui est une sorte de superlatif de l'ailleurs. Ici, c'est jamais bien, ailleurs, ça sera mieux.
Claude Giancola, vous êtes l'un des biographes d'Arthur Rimbaud. Qu'est-ce qu'il va chercher en Afrique, Arthur Rimbaud ?
On ne peut pas parler de ce qu'il va chercher en Afrique sans parler du drame qu'il a vécu. Le drame qu'il a vécu, c'est convaincu que personne ne va lire sa poésie alors qu'elle est supposée changer la vie, changer le monde, le voilà qui renonce brutalement à la poésie, avec le caractère ardennais qui est le sien, c'est-à-dire quand je prends une décision, c'est définitif, crac. Et là, malgré tout, comme il s'était reconnu poète, comme il s'était justement reconnu comme un peu le prophète qui transmet la parole, il est poète et tout d'un coup, il se sépare de cette possibilité d'exprimer.
Et puis, Rimbaud, c'est une intelligence très aiguë, très aiguë.
Kenneth White, écrivain.
Vis-à-vis de la pensée, il dit, pour la pensée, je ne crains personne. Il a raison. Et il dit aussi, je cite une lettre, philosophe, vous êtes de votre Occident. Vous êtes de votre Occident. C'est-à-dire qu'il a pris aussi ses distances vis-à-vis d'un certain Occident. Parce qu'il s'essaie aussi là-dedans, d'où sa distance vis-à-vis de toute cette situation. Un peu médiocre, ce petit monde blême, qu'il l'appelle. Donc, il aurait pu rester là-dedans, tout à fait confortablement, mais il part. Et à ce moment-là, il n'est plus écrivain, il n'est plus poète, il n'est plus philosophe, il n'est plus chef de groupe, comme il a pu l'être. Il devient le piéton de la grande route.
Il faut dire aussi que l'Orient, c'est une chose qui travaille nos poètes.
Edgar Morin.
Et donc, c'est dans cet Orient qu'il va, il ne part pas aux États-Unis. Mais ce qui est effectivement fascine, c'est comment est-on capable, brusquement, de décider de partir à Aden, dans le Yémen et en Abyssinie, dans le Harar, se transformer en trafiquant d'armes ou de choses comme ça. La continuité, c'est l'aventure, c'est-à-dire c'est une vie aventureuse, une vie qui ne veut plus de se laisser intégrer dans le monde occidental. Il veut quitter l'Europe aux anciens parapets, comme il le dit, n'est-ce pas ? Il déteste finalement ce monde clos. Et surtout ce monde clos, dans son esprit hyper surdéterminé, par sa mère, par sa famille. Quand il parle de sa mère, il a le regard bleu qui ment.
Il a fui la mère, il a fui Charleville.
Alain Sancerny.
Il a fui quelqu'un qui dans sa pensée reste monstrueuse, je pense, ou qui a créé des situations monstrueuses dont il a honte.
En 1954, Pierre Dumayet et Pierre Desgros rencontrent les anciens voisins de la famille Rimbaud à Charleville-Mézières.
Vous avez un souvenir d'elle, vous vous rappelez d'elle ?
Ah ben oui, c'était une femme rude, quoi.
Elle n'était pas aimable ?
Pas aimable, non.
Et vous aviez-vous plein d'elle, vous ?
Moi, personnellement, non, mais enfin... C'était pas une bonne femme, quoi.
Oui, je crois que votre père s'était disputé avec elle.
Ben, ils ont eu une dispute ensemble. Elle y avait même craché sur les souliers une fois. Oui. Je la voyais passer tous les jours, pendant midi, avec son ombrelle blanche, et puis sa bêche sous le bras, qui allait déterrer les bornes, décacher les bornes.
Dans les terres ?
Dans les terres.
Pourquoi ? Pour gagner du terrain ?
Pour gagner du terrain, certainement, puisqu'elle les déplaçait même.
Oui. Pourquoi elle faisait ça à midi ?
Ah ben, pour que personne ne la voie.
Elle était très pieuse, cependant.
Ah, très pieuse. Ils avaient chacun leur place à l'église, puis en revenant de l'église, c'était pour crosser les gens, quoi. Taper dessus.
Elle avait une petite statue chez elle ?
Elle avait une petite statue dans un mur, là-bas, qu'elle allait se prosterner tous les jours devant.
Vous avez plus davantage de souvenirs de Verlaine que de Rimbaud.
Ah oui, hein, plutôt. Oui, je m'en souviendrai plutôt alors.
J'avais... On parlait beaucoup d'eux dans le pays à ce moment-là.
Non. Quand on en parlait, ce n'était jamais en bien.
Mais qu'est-ce qu'on disait?
On disait que c'était deux soulards, lui et Verlaine, qu'on ramassait dans les fossés.
Madame Verlaine est malade, je crois bien.
Oui, c'est un jour de juillet. Madame Verlaine est malade à la tête. Son mari sort pour lui chercher une vague tisane et croise Rimbaud qui allait lui porter une lettre. Et Rimbaud lui dit « J'en ai assez de Paris, je pars, tu vas venir avec moi ». Et ce qui se passait, c'est que Verlaine l'a suivi.
Il n'est même pas remonté
pour les affaires. Il est parti aussitôt. Et il s'est donné lieu à la fugue qui a fini un an après par le coup de revolver de Bruxelles.
Il est rentré, il a vu que tout le monde lui faisait la gueule à cause du coup de feu de Bruxelles.
Philippe Solers.
C'est-à-dire, au fond, ça lui a porté un tort considérable. Vrai. Il a compris qu'il était très mal vu pour ce scandale d'homosexualité, Verlaine qui veut le tuer, un coup de feu, etc., la police, les maires, enfin bon, et le milieu littéraire, effrayé. Il est parti, voilà.
Et en fait... Il va se reconstruire en Afrique, par l'Afrique, c'est-à-dire déjà loin de l'Europe. Loin de cette Europe qui ne l'a pas reconnue, de cet Occident qui ne l'a pas reconnue, de cet Occident qui est incapable de reconnaître son prophète. C'est un point commun qu'il va avoir avec la vingtaine ou la trentaine d'Européens qui croisent dans la région. Ils ont tous un compte à régler avec la vieille Europe. Bien, c'est le premier point. Le deuxième point, il a besoin d'une lutte. Pour se vider la tête, pour oublier, pour se trouver d'autres raisons de s'agiter, de s'activer, donc de manger, de boire, de dormir. Et l'Éthiopie est un pays qui est fascinant pour ce genre de choses, puisqu'il offre tout l'inconnu possible. Et il y a donc beaucoup d'agitation dans ce pays, car c'est le dernier pays d'Afrique qui n'a jamais été colonisé. Donc d'une part, tous les grands pays occidentaux sont là, parce que c'est l'époque aussi, fin 19e, où on va explorer le monde entier. Donc Rimbaud va se trouver mêlé à ce lieu en pleine transformation, et je pense que c'est ça qui va le sauver et l'aider à se reconstruire. Alors il va se reconstruire comme on se reconstruit quand on a eu un grave drame, c'est-à-dire qu'au départ, il va s'agiter dans tous les sens.
Ou alors Rimbaud est quelqu'un qui détale.
Alain Borère.
Mais comme il détale sans cesse, au fond, il ne fait rien. Que, bien sûr, tout ce que l'on lui prête, les bourgeois, les mauvais poètes, il y a de quoi fuir. Mais il fuit fondamentalement. Il fuit dès l'origine. Il est en fuite, c'est-à-dire comme tous les météores, quoi. Et être en fuite chez lui, c'est la même chose qu'être en quête. On peut faire l'alphabet de Rimbaud, Aden, Bruxelles, Chypre, Jeddah, Ntoto, Fumé, Gibraltar, Harare, Innsbruck, Java, Combarovent, Londres, Marseille, Naples, Paris, Obock, Bruxelles, jusqu'à Zanzibar. Mais Zanzibar étant le terme alphabétique d'un voyage auquel il n'accédera jamais et qui est le vrai lieu. Le lieu toujours au-delà, où cela devrait avoir lieu.
Très jeune encore, dans sa lettre du voyant, Rimbaud disait qu'il voulait revenir à son état primitif de fils du soleil. C'est une phrase très énigmatique, comme beaucoup des phrases du jeune Rimbaud. État primitif de fils du soleil. Moi, je crois qu'il pensait à l'Égypte. L'Égypte de la culture, c'est le delta. Ensuite, on remonte à travers les sables et on arrive à Thèbes. C'est déjà le grand isolement. Mais au-delà de Thèbes, il y a l'épistratégie. L'épistratégie de Thèbes. C'est là où il y a l'Éthiopie. L'Éthiopie que Ptolémée décrit comme Éthiopia subigupto, l'Éthiopie sous l'Égypte. Et c'était en arabe, les Arabes disaient que ce qu'on n'appelait pas encore l'Éthiopie, et encore moins l'Abyssinie, c'était, je ne prononce pas bien l'arabe, mais je devrais pouvoir penser ça, Bas Adjam. Bas Adjam, c'est les territoires inconnus. Donc c'est là qu'il va. Et l'Éthiopie a toujours été, depuis le 1er siècle de notre ère, toute la mer Rouge et ce qu'on appelait la mer Érythrée, qui comprenait à la fois la mer Rouge et l'océan Indien, était un lieu de commerce extraordinaire. Rome était très au courant de ça. Rimbaud aussi, parce qu'il est très fort latiniste. Donc, il sait qu'il peut-être trouver à faire du commerce là. On faisait du commerce avec les aromates, avec les épices, avec le coton, avec l'écaille de tortue. Donc, il s'est dit que peut-être que j'arriverai aussi à faire fortune, comme on disait à l'époque. Donc je crois que ça, c'était une des motivations. Bon, autre chose qui m'intéresse chez lui, c'est que c'est un chrétien qui s'est marqué par la chrétienté, mais qui veut sortir de la chrétienté. La saison en enfer, pour moi, c'est une espèce d'auto-analyse d'un chrétien qui veut se débarrasser de son christianisme. C'est ça la saison en enfer. Et le christianisme, cet autre Dieu, comme il dit, qui nous a attelés à sa croix, a foutu sa vie en l'air, il le sait.
Il y a une histoire des religions à travers Rimbaud, le catholicisme de 1860-70 en Ardennes, c'est le pire moment de l'histoire du catholicisme. Le moment où cette religion, qui est celle de la plus grande forme de création en musique, en littérature, en peinture, tombe dans l'esthétique, si j'ose dire, de Lourdes. Et donc, il y a un rejet absolu de ce catholicisme chez Rimbaud. Pas de doute qu'il y a, à travers l'étude de l'arabe, à travers la grammaire arabe qu'il demande, celle de son père, qui avait occupé le bureau arabe de Sebdou en Algérie et annoté une grammaire. Pas de doute qu'il y ait aussi cette forme de quête dont il est conscient. Alors, sur la conversion à la fin de sa vie, c'est très simple. Abstenons-nous. Nous ne serons jamais rien. Cela n'a aucune espèce de signification pour personne. L'ensemble de l'œuvre de la vie de Rimbaud, en revanche, transcende la question des religions. Elle est à soi-même un rejet, un dépassement de la chose religieuse en tant qu'elle est ce catéchisme fantasmatique, mais aussi en tant qu'elle est le refus des procédés et le refus des promesses de toutes les religions du salut, qui est de nous promettre ce que Rimbaud désire dans Au-delà de la mort, et lui le veut maintenant au soleil.
On a abusé de mon innocence. C'est mon baptême et ma faiblesse dont je suis esclave. Tais-toi, mais tais-toi. C'est la honte et le reproche à côté de moi. Allons, la marche, le désert, le fardeau, les coups, le malheur, l'ennui, la colère, l'enfer, la science et les délices de mes peurs et des sens dispersés. Rimbaud.
Et la saison d'enfer, c'est 73, il a 18 ou 19 ans.
Alain Tourneux, conservateur du musée Rimbaud à Charleville-Mézières.
C'est vraiment le moment où Rimbaud a cette espèce de vision sur ce qu'il aimerait faire, et d'une certaine façon, ce qui est écrit dans La Saison en l'enfer, il l'a vécu, c'était prémonitoire, il l'a souhaité vivre intensément, et cette intensité, on la ressent dans La Saison. C'est ce chemin qu'il a suivi. En fin de compte, il renonce à la poésie, mais il y renonce pour la vivre.
Kifley Selassie, vous êtes historien, natif d'Addis Abeba. Que représentait l'Éthiopie dans l'imaginaire de Rimbaud avant que celui-ci vienne sur le continent noir?
L'Éthiopie symbolisait, vers 1880, dans la tête de quelqu'un qui est aussi éveillé que Rimbaud, un pays qui a quand même fait la guerre avec l'Angleterre en 1869. Il a vu, pendant cette période, la construction de l'État moderne en Éthiopie. En Europe, on en parlait. Donc, avant même de partir, il avait une certaine idée de l'Éthiopie. Et avec ses amis à l'époque, à Charleville-Mézières, il parlait un peu d'aventure, de l'islam et du christianisme. Et pour sa part, bon, il s'était beaucoup plus intéressé à connaître l'Empire chrétien d'Éthiopie. Et le nom Éthiopie est mentionné à peu près 33 fois dans la Bible. Parce que la Bible que nous l'avons à travers la traduction hellénique. Et chez les Grecs, à chaque fois qu'un homme noir apparaissait dans ses récits, ils l'appelaient Éthiopien, ça signifie un homme au visage brûlé, au visage noir. Donc tous les Noirs étaient des Éthiopiens. Tout quelque part, dans Une Saison à l'enfer, quand il dit « Je suis un nègre », il avait tout ceci présent dans son esprit.
Monsieur Tourneux, on dit qu'Arthur Rimbaud a appris l'amharique très jeune. Est-ce que c'est une légende ou c'est une réalité?
La bibliothèque de Charleville était très bien dotée et ça lui a permis d'y passer des journées entières. Et il n'est pas du tout impossible qu'il ait pu avoir accès à de nombreux ouvrages. Il dit bien avoir souhaité apprendre l'amharique, et puis on se rend compte qu'il le parlera avec tellement de facilité que c'est sans doute, c'est assez probable qu'il l'ait découvert à Charleville.
Vraiment, il y a l'idée toujours de l'ailleurs. Ça, c'est très frappant, comme superlatif, mais avec une sorte de hâte. Il faut aller voir ailleurs s'il n'y est pas. Et il y a dans cette quête de l'espace et du temps une exigence absolument métaphysique. On ne comprend rien à Rimbaud si l'on n'entend pas le Rimbaud physique et métaphysique, intrinsèquement lié.
Stanislas Fumé, 1966.
Pour vous, il y a une unité dans la vie de Rimbaud.
Ah, complète.
C'est-à-dire Rimbaud l'aventurier de la deuxième partie de sa vie fait suite au Rimbaud poète.
Absolument. Et je trouve complètement absurde de penser que Rimbaud, qui va être un génie unique, bon, on n'a jamais vu une chose comme ça, ait tout d'un coup renoncé à écrire parce qu'il n'avait plus rien à dire. C'est absolument faux. Mais je n'ai pas à dire cela. C'est pas ce qui compte, c'est faire. Il est passé du dire au faire. Il a rejeté la poésie, il a rejeté l'art, il a rejeté toutes ses expériences, il a rejeté son socialisme, il a tout rejeté pour devenir un homme comme les autres qui gagne sa vie correctement.
On peut dire que son départ, c'est une tentative pour vivre poétiquement.
Edgar Morin.
C'est-à-dire à la fois d'une façon intense, c'est-à-dire une façon de pouvoir jouir pleinement de l'existence, c'est une façon aussi de, comme redirait Bataille, de consumer sa vie.
Regardez en 1880.
Alain Borel.
Postez-vous à Aden. Voici un paquebot des messageries maritimes. Qui en descend? Des prêtres en soutane. Des explorateurs avec le casque colonial. Des diplomates. Et un jeune homme. Arthur Rimbaud, 27 ans, venant en Abyssinie, non pas pour faire le commerce de toutes les formes occidentales, pour chercher du travail. C'est un homme nouveau qui vient. C'est une forme nouvelle qui vient.
Je me penche sur cette vie qu'il a dû avoir et qu'il a partagée.
José Maribel, directeur de l'espace La Reine de Saba à Paris.
Aden était un port à cette époque-là très important. Le canal de Suez venait d'être ouvert en 1869. Donc il y avait de nombreux bateaux qui passaient, des navires. Il y avait des packet boats, il y avait de la circulation d'idées, de gens, de matériel, d'objets. J'ai découvert il y a des années, à l'île de Syrah, une ancienne usine pour distiller l'eau et fabriquer de la glace. Autrement dit, à l'époque d'Arthur Rimbaud, il y avait un certain confort. Mais je pense que ce qui était la chose la plus intense, la plus grave peut-être dans la vie quotidienne à Aden, était essentiellement la santé. En 1891, quand il a dû quitter précipitamment à Harare ses affaires pour arriver jusqu'à Aden, tenter de voir un médecin pour soigner son genou et sa jambe droite, il est resté quelques jours et on lui a dit: vous ne pouvez pas rester, il faut absolument retourner en France et arriver à Marseille pour se faire amputer.
Il se plaint souvent dans les lettres qu'il écrit à sa mère ou à sa sœur. Il se plaint des conditions, du contexte, de la chaleur évidemment, ça on l'imagine. Qu'en était-il de son quotidien ? Apparemment il dormait en plein air.
Oui. Mon auberge était à la Grande Ourse, n'est-ce pas ? Et on peut comprendre qu'elle le fut certainement souvent à Aden. Car en général, il fait à peu près 30 à 40 degrés Celsius et un taux d'humidité important. Donc la vie quotidienne là-bas a été d'être employé de factorerie, hein, pour la factorerie Bardet, Vianney et compagnie. Il s'est occupé du café. Et il s'est occupé donc de comptabilité, de travail de café, de triage de café, etc. Et il s'est très vite ennuyé.
Ah oui, il s'ennuie à mort. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a une immense énergie intérieure. Mais dans son boulot, il s'ennuie. Ouais. Mais une fois qu'il est sorti de son bureau, c'est toujours le marcheur. C'est toujours ce type qui a non seulement une énorme intelligence et un talent littéraire qui n'aura jamais disparu, mais qui a aussi une robustesse physique. Donc il marche. Il marche sur le soleil brûlant sur le plateau. Il marche sur la côte. Et là, ce que je vois là, c'est une autre étape de son séjour en Éthiopie, c'est une ascèse. Ce type est en train de faire une ascèse. Il est en train de brûler tout ce qu'il n'aime pas en lui. Toute cette littérature, même la sienne, qu'il n'aimait pas. Il va dire sur son lit d'hôpital à Marseille, c'était mal. C'est pas moral, ça. Il sentait qu'il était trop dans l'idéal, il était trop dans la métaphorisation continue, dans l'imaginaire. Il voulait autre chose. Il voulait quelque chose de plus terrestre, de plus fort.
Sa saison en enfer, il la vivait intensément, quotidiennement, et c'était une forme pour lui d'exil, de pinsomme. Son chemin de croix qu'il a pratiqué, il s'est retrouvé là, pour ainsi dire, coincé avec ses activités, où il espérait toujours quitter Aden, quitter Harare pour partir à Zanzibar, au Panama, au Japon, pourquoi pas.
Alors l'aventure est-elle morte en lui ? Nullement. Les frères Bardet lui proposent un poste dans leur succursale de Harare, en Éthiopie. Il accepte avec enthousiasme. Harare, ville mystérieuse, c'est encore l'inconnu et c'est peut-être la fortune. Rimbaud s'élance à travers le désert somali. Le 10 décembre 1880, il atteint Harare.
Claude Jean-Collin.
C'est un lieu où le temps n'a aucune importance. Donc déjà, et c'est ça qui va être très dur pour Rimbaud, lui c'est un homme pressé. C'est un travailleur infini, un homme pressé. Et pourtant, Mgr Cahen, qui avait prévenu les Bardets qui voulaient s'installer là-bas, leur avait dit: attention, méfiez-vous de cette fièvre française. Vous voulez tout faire vite, là-bas, il faut prendre le temps. Là-bas, quand on veut commercer, il faut déjà commencer à parler, à bavarder, à faire connaissance, voire à faire même connaissance en pays musulman, donc Harare qui est musulman, faire preuve de connaissance théologique. Et donc il n'est pas étonnant que Rimbaud fasse venir un Coran pour parler.
Parlons de la mécanique commerciale de Rimbaud. Quelqu'un de très précis, très organisé, comment ça se mettait en scène à Harare même ?
Alors d'abord, il faut voir plusieurs étapes. Quand il arrive au début, il est salarié. Donc le Rimbaud salarié, pardonnez-moi, à la place de l'employeur, je l'aurais viré tout de suite. Car Rimbaud est recruté pour faire le commerce du café. Bardet veut vendre du café, acheter du café. Or, Rimbaud, on le voit, s'intéresse à tout le reste, à tout. Il fait venir des livres sur les scieries, sur la poterie, sur l'hydraulique, sur des tas de choses qui prouvent un éclectisme. Il veut se noyer dans l'aventure, dans un monde nouveau, dans... Voilà.
Ce ne sont pas des ouvrages de littérature, il n'y a pas de poésie dans tout cela.
Alain Tourneur.
On a reconstitué au musée Rimbaud la bibliothèque africaine. Eh bien, ce sont toujours des ouvrages techniques, scientifiques. Il y a des précis de géométrie, d'algèbre. Il y a aussi des ouvrages beaucoup plus pratiques sur la meilleure façon d'installer des voies de chemin de fer. Il y a le manuel du maçon, le manuel du conducteur, le manuel du voyer. C'est que derrière la tête, il a sans doute déjà... l'idée du chemin de fer qui partirait depuis la côte jusqu'à Addis Abeba.
Il est venu avec des rêves dans tous les sens, et un des rêves en effet, ce serait d'écrire et d'écrire des livres de géographie et d'écrire pour la société de géographie. Et pourquoi il a cette idée-là? C'est simple, tous les autres autour de lui font ça. Alfred Bardet fait partie de la société de géographie, envoie des rapports, envoie des courriers qui sont publiés. Jules Borelli, son ami géographe, ben lui, il écrit des livres. Il a écrit Éthiopie méridionale, mais il est aussi correspondant. Il écrit pour les sociétés de géographie. Car il faut se dire qu'il n'y a pas qu'une société de géographie. Il y en a en France à l'époque, dans chaque grande ville. Donc tout le monde le fait. Donc c'est en découvrant ce fait qu'il se dit, ben, pourquoi pas moi? Je sais écrire.
Il tourne autour de Harare, il fait du cheval, il marche sans arrêt.
Alain Sancerny, poète, responsable de la préfiguration de la maison Rimbaud à Harare.
Et puis il insiste pour aller explorer l'Ogaden, pour aller chercher des pots du côté de Boubassa. L'Ogaden à l'époque, c'est tout de même certainement l'une des régions les plus dangereuses de cette région même de Harare. Il s'habille déjà d'une façon neutre en marchant arabe. Il met une serviette, un turban rouge, il en rigole dans ses lettres. Mais il sait très bien imiter rapidement les coutumes, le langage, les expressions des gens parmi lesquels il vit. Il a un œil qui saisit, qui assimile vite. Il assimile les langues à une rapidité extraordinaire. Il absorbe tout. Rimbaud est une éponge.
Abdourahmane Waberi, écrivain.
C'est le premier à parler de Ogaden, à Harar aussi, le mot Harar, comme on dit, mais je le prononce un peu Harar, Tadjoura aussi, Obok, ou même Aden. Évidemment, il y a Nizan qui arrive plus tard, mais le mot d'Aden est aussi associé à Rimbaud. Il y a des mots comme ça qui sont rentrés dans, on va dire, dans les dictionnaires français par le biais de Rimbaud.
Oui, je suis un grand lecteur de la géographie universelle d'Élisée Reclus.
Guinness Wise.
Et un jour, donc, je lisais les chapitres sur l'Éthiopie. Dans les pages, et je tombe sur un rapport envoyé par quelqu'un, un certain Rimbaud, d'Éthiopie, à la Société de géographie de Paris. Cité par Reclus, qui ne sait pas qu'Arthur Rimbaud est un poète, un écrivain, il ne le sait pas. Et moi, je trouve ce texte très intéressant. Voilà. La région centrale du pays, l'Ogaden, dont l'élévation moyenne est de 900 mètres, est une vaste région de steppe. Après les pluies légères qui tombent dans la contrée, c'est une mer de hautes herbes, interrompue en quelques endroits par des champs de cailloux. Ça n'a l'air de rien, mais voilà un texte qui est débarrassé de tout l'imaginaire, de toutes les métaphores poétiques, de toute la poéticité rampante, qui répond à une phrase du jeune Rimbaud, dégoûté effectivement de tout ce qu'il voit autour de lui sur le plan culturel, etc. « Si j'ai du goût, ce n'est guère que pour la terre et les pierres. » Ce qu'il trouvait en Éthiopie, c'était la terre et les pierres. C'est ça qui est décrit dans ces textes. Et à mon avis, il trouve une formule qui est proche d'une poésie sobre, épurée, dépouillée. Là, on est près de la terre, on est au ras du sol, mais avec un esprit qui est d'une clarté absolue.
Et donc, après coup, la Société de géographie va lui envoyer une demande pour qu'il fasse partie. Et là, on ne sait pas pourquoi, ça n'a déjà plus... Rimbaud n'aurait pas répondu. Ceci dit, il va après essayer d'écrire un livre. Et son ami photographe, Bidot, qui passe beaucoup de temps chez lui, photographie toute la région aussi pour faire un livre. Car tous ces explorateurs marchands qu'ils rencontrent autour d'eux ont aussi un sens d'une mission d'information de l'Occident. D'où aussi l'idée de faire venir un appareil photographique pour faire un livre illustré, etc.
Claude Jeancola, quand il demande à sa mère de lui procurer un appareil photographique, c'était pas une mince affaire quand même.
C'était pas une mince affaire parce que la mère va se mettre au service de Rimbaud. Pour l'appareil photo, bon, au départ, elle peut trouver ça un peu, pourquoi pas. Sauf que la facture finale, elle est quand même de 9 500 €. Vous imaginez? C'est-à-dire plus de 6 mois de salaire de Rimbaud.
C'était quand même une aventure singulière.
José Maribel.
Commander du matériel en Europe, à Charleville, pour le faire acheminer jusqu'à Marseille, et ensuite pour que ce matériel arrive avec des bains de développement jusqu'à Aden, jusqu'à Zeila, pour parcourir 2 mois à peu près de route caravanière, à dos de dromadaire, avec des chameliers, et pour arriver jusqu'à Harar, et pour aboutir à faire 5, 10 photographies. Nous n'en connaissons pas plus de 5, avec quelques portraits ou autoportraits. Et donc, il s'est essayé à la photographie parce qu'il disait « il y a peut-être le moyen de faire quelque argent dans cette histoire-là ». Et encore une fois, il a lâché. Il s'est rendu compte que ce n'était certainement pas son bonheur.
Pressé, c'est extraordinaire de voir à quel point Rimbaud fut toujours pressé. Mais alors là, il faut dire une chose importante. C'est que la hâte, la vitesse, joue un rôle absolument fondamental dans son œuvre, au sens où il n'y a pas d'œuvre. Rimbaud est un homme pressé, mais il a sans cesse abandonné son œuvre. Il n'y a pas l'œuvre d'un côté, et puis ensuite le réel. Rimbaud ne cesse de cesser. C'est même ça qui forme une absolue continuité. L'interruption est constante.
C'est un drôle de bonhomme qui prend racine dans la corne de l'Afrique. Un poète masqué qui s'agite dans tous les sens pour se raccrocher à la modernité. Un non-conformiste capable de se faire agresser pour avoir tué des chiens. De fréquenter des capucins décidés à évangéliser à tout craint. De s'amouracher avec une abyssine, puis de l'abandonner. Arthur se joue du réel avec un doigté qui n'a d'égal que sa capacité à déconcerter, à cultiver sur terre son propre mystère.
Les 7 premières années de Rimbaud sont des périodes d'errance.
Alain Sancernier.
Il passe à Harar, mais ne prend pas racine à Harar. Et Harar est noyé en 2 séjours, sur un an à Aden, un an à Tadjoura, sur d'autres années ailleurs. Il commence à penser à gagner plus d'argent plus rapidement. Et évidemment, comme toujours, c'est le trafic d'armes qui est plus rentable que tout.
Le trafic d'armes est venu,
Claude Jeancola,
d'une situation économique où il n'était plus salarié. Enfin, il était encore salarié des Bardets. Il avait dû, pour des raisons économiques, rentrer à Aden, liquider Harar. Il se retrouve là un peu comme il était au départ. Donc il n'a plus aucun intérêt. Il ne voit plus de développement possible à sa carrière. Mais la plupart des marchands trafique les armes. Le principal client est Ménélique. La stratégie de Ménélique, et qui va réussir, c'est de dire « ma priorité, c'est mon armée. Il faut que mon armée soit la plus moderne de toute la région. »
Et Ménélique, à l'époque, n'était que le roi du Shoah.
Kifleh Selassie.
Il avait déjà dévisé sur le trône de l'Éthiopie, parce qu'il était convenu que, après Jean IV, qu'il monterait automatiquement sur le trône d'Éthiopie.
Et donc il se lance dans une entreprise commerciale extrêmement complexe, trop complexe, où il y a des règlements internationaux, il y a des règlements et des négociations locales avec les imams, les cheikhs, avec toutes les tribus à travers lesquelles la caravane doit passer. Il faut traiter avec les chameliers, il faut attendre. Donc c'est une entreprise qui dure 2 ans, qui patine énormément, qui épuise Rimbaud réellement.
Pluie. Impossible de se lever avant 11 heures. Les chameaux refusent de charger. Toute la soirée et toute la nuit, nous attendons les chameaux qui ne viennent pas. Il pleut 16 heures durant et nous n'avons ni vivres, ni tente. Je suis ici en train de former ma caravane pour le Shoah. Ça ne va pas vite comme c'est l'habitude. Mais enfin, je compte lever d'ici vers la fin de janvier 1886. N'allez pas croire que je vais devenir marchand d'esclaves. Les marchandises que nous importons sont des fusils.
Alors, en effet, il va jouer de malchance. Donc, au départ, tout se passe bien. Les armes arrivent à Tadjoura. Rimbaud est à Tadjoura. Bon, il y a des problèmes diplomatiques entre les grandes puissances européennes. Donc, un jour, la France l'autorise. Le lendemain, ne l'autorise plus parce que les Anglais sont intervenus. Lagarde, qui est le gouverneur français de la colonie d'Obock, a écrit quand même beaucoup de lettres au gouvernement français disant « Attention, faut pas interdire les marchands d'armes, parce que quand même, nous, on a besoin de Ménélik, absolument, parce que notre petite colonie, on va être bouffé par les autres. Il faut plaire à Ménélik, et pour ça, il faut accepter la vente des armes, même si on le fait en douce. » Donc, il perd déjà 6 mois, et en plus, il n'a pas le temps. Car en effet, il pressent que le trafic d'armes va être totalement interdit. Et d'ailleurs, il sera interdit quelques jours après qu'il soit parti.
À partir de là, quand il a monté cette caravane, qui est considérée fructueuse.
José Marie Bell.
À savoir qu'un fusil réformé, qu'il lui coûtait 2 talari, eh bien, il comptait les vendre 40 talari. Donc le gain pouvait être considérable, surtout qu'il a commandé des fusils réformés. À partir de là, il ignorait aussi que les Italiens et les Anglais étaient dans le secteur et avaient négocié avec Ménélik des fusils beaucoup plus récents, de meilleure qualité. Et donc, il a manqué peut-être d'informations, de jugeotes, certainement, et puis il n'a pas eu de chance.
Il a été escroqué par le roi, et puis finalement, le roi, qui lui a payé même pas la moitié de ce qu'il aurait dû,
Claude Jean Collin,
lui dit, va te faire payer Harare. Parce qu'ici, il n'y a pas d'argent, c'est là. Bon. Il part à Harare. Là, on lui dit, non, ici, il n'y a pas plus d'argent, parce que dès qu'on a pris la ville, on a levé des impôts qu'on a immédiatement envoyés pour l'armée. Donc, va te faire payer à Massaoua et à Aden, voilà des traites. Et donc, le voilà qui part se faire payer à Aden, puis à Massaoua, puis il est rapporté son trésor au Crédit Lyonnais au Caire, et en fait, il aura déposé exactement le montant de l'argent qu'il avait mis dans l'affaire. Donc, il n'aura vraiment rien gagné.
Et lorsque Rimbaud arrive, par exemple, au Caire, j'adore ce moment. Lorsqu'il arrive au Caire en été 1887, là, au mois d'août...
Alain Borer.
Alors, il est ravagé par les fièvres. Il est totalement... Donc, il est, à ce moment-là, est absolument persuadé d'être totalement inconnu. Et en effet, il n'aura été publié que 5 fois, et à son insu, sauf la saison en enfer. Certain d'avoir tout jeté, tout brûlé, tout abandonné. Et il arrive au Caire, vous connaissez la foule, la poussière. Et là, Rimbaud se voit pour la première fois dans les ruelles du Caire. Il achète le Bosphore égyptien qui publie en français sur 22 colonnes sa relation de voyage en Abyssinie d'où il revient. Et il est heureux sans doute dans la foule du Caire avec le Bosphore égyptien en poche d'être publié, lu quelque part. Et c'est la seule fois où il se promène avec la littérature dans sa poche et heureux.
Le premier Rimbaud de la première période est nu.
Alain Sancerny.
Il arrive pauvre, il fait son commerce, il gagne un peu d'argent, il est un peu remarqué parce qu'il est blanc, il est nu. Le Rimbaud qui s'installe à Harare en 88 et qui va rester jusqu'à la fin de sa vie sans désirer en repartir, qui serait resté plus longtemps, est une personnalité importante.
Et c'est très frappant parce que il a la capacité, Rimbaud, dans la vie, de parler à tout le monde. Il parle aux ouvriers, il sait aussi s'adresser aux négus magnifiquement. Et par conséquent, on peut imaginer qu'il parle sans cesse.
Lui, sa maison est le centre principal de tous les échanges diplomatiques, intellectuels de l'époque. Et de la région. C'est Rimbaud qui, il était déjà très lié avec la mission catholique, mais qui reçoit tous les savants, tous les géographes, tous les, on pourrait dire les agents spéciaux, les espions, tous les militaires, tous les commerçants, s'il les reçoit chez lui.
Et il se laissait aller avec grand plaisir, je crois, à des histoires. Il buvait peu d'alcool. Il ne catait quasiment pas. Le cat, c'est cette plante que l'on mâche encore aujourd'hui.
Et de temps en temps, dans le café, il se laisse aller. Il parle pendant 1 heure, il fait des conversations. Ils sont époustouflés, quoi. Et puis de temps en temps, il a un humour féroce. Il y a cette activité morale et intellectuelle encore très forte chez Rimbaud.
C'était quelqu'un qui les fascinait. comme il a fasciné beaucoup de gens. Il y a aussi l'évêque Jarosso qui disait, quand on le rencontrait, on sentait qu'on avait affaire à quelqu'un de très particulier.
Alain Borère, où s'installent dans le verbe de Rimbaud ces fulgurances d'humour que l'on décrit parfois?
Rimbaud n'est pas du tout humoristique. Non, il est sarcastique. Sarcasmos, en grec, c'est la chair, c'est la morsure. Et il passe sa vie ou bien dans le mutisme, ou bien dans le sarcasme. Et ceux qui ont eu affaire à son sarcasme se sont sans doute rappelés très longtemps ses saillies.
Nous attendons notre nouveau gouverneur qui, paraît-il, a quelque éducation européenne. Le chasseur d'éléphants que vous nous avez envoyé d'Aden caracole indéfiniment dans les gorges de Darimon et il débouchera par ici quand il aura séché ses votrisquisses de porc et de preserved milk parmi les guéris et les bartries.
Tout à coup,
Philippe Solers,
un petit bout de fulgurance me réapparaît alors que je la connaissais par cœur. Tous les matins, dans l'autobus, je me récite les retrouver, quoi, l'éternité, c'est la mer mêlée au soleil. Qu'est-ce que c'est que l'éternité, la mer mêlée au soleil? Ça me parle, je vois la mer mêlée au soleil très tôt, voilà. Voilà. Puis alors après, vous savez ce qu'il dit. Donc, mon âme éternelle, oh là là, l'éternité, c'est la mer mêlée au soleil, alors la suite, c'est quoi? Mais mon âme éternelle, il tutoie son âme. Mais il se donne ce droit invraisemblable. Mon âme éternelle, observe ton vœu. Alors, observe, quoi, observe ton vœu. Un vœu, c'est très très fort, un vœu. Hein, malgré la nuit seule et le jour en feu. Ah, la nuit seule et le jour en feu. Ouais. Alors donc, tu te dégages des humains suffrages, des communs élans. Tu voles selon. Mais quelle actualité admirable de se dégager des humains suffrages et des communs élans. Voilà.
On imagine que Rimbaud, très anticlérical, n'attire pas forcément les foules vers la religion. Mais il y a chez Rimbaud une quête du salut. Et c'est cette quête du salut, je pense, qui est l'essentiel de sa vie. Toute la saison en enfer, par exemple, qui est son livre fondamental, et on parle moins du diable que de Dieu, en fait. Il y a un besoin de donner un sens à sa vie, et c'est un être très spirituel.
Et il y a chez Rimbaud sans cesse la recherche, qui est dite en poésie explicitement, d'un corps nouveau. Ce corps doit se substituer au corps ancien, périmé. Et ce corps nouveau passe par là, par l'Abyssinie, c'est-à-dire aussi par des pays d'attraction solaire énorme, des pays où tout serait à découvrir et où l'on aurait peut-être la possibilité, au-delà de ce réel qui va le tuer, d'accéder à ce corps nouveau qui serait aussi un corps collectif. Cela s'entend dans Vagabond. Et nous errions, nourris du vin des cavernes et du biscuit de la route, moins pressés de trouver le lieu et la formule. Il y a quelque chose d'obscur, et pourtant c'est d'une luminosité extraordinaire.
Ce passant considérable a-t-il trouvé à Harare le lieu et la formule? De son œuvre, il ne veut rien savoir de ce qui se trame. Ce qui le préoccupe désormais, c'est de ne plus pouvoir marcher. Son genou le fait souffrir. Ses jours sont comptés. Il a à peine 37 ans.
Il n'a plus du tout parlé de poésie.
José Maribel.
C'était des rinçures, a-t-il dit à Bardet et Paul Bourde qui le cherchaient.
Bourde est un condisciple de Rimbaud, un ami d'enfance qui a eu une petite carrière littéraire.
Alain Sancerny.
Et il rencontre Bardet. Il s'aperçoit sans doute que Bardet, qu'il parle du même Rimbaud. Et Rimbaud était devenu à la mode. Verlaine joue un rôle évidemment essentiel dans l'invention de Rimbaud, dans la création du personnage de Rimbaud et du poète Rimbaud. C'est-à-dire que rien de la poésie de Rimbaud, de son passé, même par accident, n'avait filtré. Bardet le dit, je suis vraiment tombé des nues, je n'avais jamais vu Rimbaud comme ça. Je le voyais un peu, et ça dit tout d'ailleurs de la culture de Bardet, je le voyais un peu spécial, le poète est spécial. Mais tout de même, je n'aurais jamais deviné qu'il fut poète. Bourde écrit un mot à Rimbaud. Rimbaud plie le papier en quatre et le range.
Eh bien, ce document, il le gardera avec lui. Donc, il en conçoit malgré tout une certaine fierté.
Alain Tourneux.
Mais il a besoin de se détacher de tout cela, sans aucun doute. Et quand on lui rappelle qu'il est connu, pour lui, ben, le jeu est un autre, il y est parvenu.
Rimbaud n'est pas un poète. Ce n'est pas un auteur. C'est quelqu'un qui aura cherché dans la poésie, comme dans le commerce, et c'est pas le commerce, c'est mille autres idées constamment, le moyen de s'en sortir, le moyen d'accéder à quelque chose que l'on peut appeler la métaphysique, c'est-à-dire la liberté dans une âme et dans un corps. Et celui qui n'a pas compris ça, comme tout le monde, comme quiconque, personne n'a jamais su à qui il avait affaire avec Arthur Rimbaud. C'est nous-mêmes qui commençons un petit peu à en percevoir la taille réelle. Et elle est hors de toute littérature.
Alain Borer, c'est la postérité rimbaldienne qui s'anime tout de suite après la mort à 37 ans autour de grands poètes qui, d'un seul coup, trouve Rimbaud génial. Claudel, jusqu'à Breton, passant par Soubeau, enfin bref, il y a tous les personnages qui jouent un rôle définitif dans la postérité. Comment tout ça s'affronte, hier comme aujourd'hui, et pourquoi à ce point-là?
D'abord, parce que Rimbaud anticipe les formes dans lesquelles tous ces gens-là vont s'exprimer. 1886, Verlaine publie Les Illuminations, tellement en avance dans l'histoire des formes, ce texte, qu'il n'est lu qu'en 1900, au début 1900, par quelques premiers poètes d'importance, Ségalène, Claudel. Et les formes ensuite sont perceptibles quand elles deviennent l'usage en 1920, avec les surréalistes et aussi avec Dada. Mais alors, c'est pas tout, parce que cela ne serait que de l'histoire littéraire. C'est aussi que ces formes anticipées, il les a par avance abandonnées. Et si l'on peut répéter les formes qu'il a anticipées, on ne peut pas reproduire l'abandon, figure absolue. Voyez donc que dans sa postérité, dès lors, se trouvent aussi les grands poètes américains. La Beat Generation est anticipée par Rimbaud. Et il est sûr que Ginsberg, Kerouac, Dylan sont des figures rimbaldiennes absolues, d'ailleurs revendiquées comme telles, pour drogue, homosexualité, bien sûr tout ça, mais aussi d'abord fondamentalement par la volonté de ne pas se lier seulement au succès des formes poétiques, mais de changer tout ça fondamentalement, c'est-à-dire de changer la vie et la société.
Regardez ce que dit Mallarmé,
Philippe Solers,
qui s'attarde sur les mains de Rimbaud, qui est des mains de blanchisseuse, il l'a vu, il l'a connu, et qui dit ce passant considérable, oui, le passant aux semelles devant, tout ça est quand même dérisoire. C'est un trait. Rimbaud était très beau, vous savez. Oh oui, très très beau. Et voilà comment on fait un mythe avec des photos, etc. L'insolence, le désir éperdu de Verlaine, le désir très refoulé de Mallarmé, puis le désir successif de tout le monde. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est comment la beauté insupportable, liée au génie, évident, provoque... du mythe, des mythologies, des récupérations, des falsifications, et toujours sur le même point, c'est-à-dire que personne ne se plie à écouter le rythme de ce que dit Rimbaud. Je suis un inventeur autrement méritant que tous ceux qui m'ont précédé, un musicien même qui ait trouvé quelque chose comme la clé de l'amour.
On a cru qu'il créait des mystères.
Charles Danzy.
Comme il ne parlait pas beaucoup, comme il est parti, comme au bout d'un certain temps il a cessé d'écrire et qu'il n'y a qu'une correspondance relativement de peu d'intérêt, on pense qu'il y a un mystère. Mais pour moi, Rimbaud, c'est pas si mystérieux, personne n'est mystérieux. C'est un peu le sphinx en secret de Oscar Wilde, c'est-à-dire il a un air de sphinx, mais le secret, il n'y en a pas. C'est ça, Rimbaud. Il est devenu une icône. Une icône, ça se regarde, ça ne se lit pas. Et on a beau essayer de dire, lisez sa littérature, ce qui est important, c'est pas l'image qu'on vous en transmet, ça n'est pas même pas ce que je suis en train de vous en dire maintenant, c'est ses livres, c'est pas si compliqué. Eh bien, c'est une chose très difficile car nous sommes noyés dans du commentaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, un écrivain cesse d'être possédé par sa littérature et pris par d'autres qui le commentent en permanence et le commentaire se suffit à lui-même et auto-crée du commentaire. Donc Rimbaud, ça peut continuer 100 ans.
Jean-Louis Bory, 1966.
L'opération récupération de Rimbaud, qui a été merveilleusement menée à bien, et que je trouve pour ma part profondément à la fois douloureuse et pénible, parce qu'elle va contre, à mon avis, le rayonnement que devrait avoir Rimbaud.
Pouvez-vous décrire cette opération ? Soyez plus explicite.
C'est l'opération des professeurs. C'est ce que j'appellerais l'opération université. Rimbaud est un auteur qui gêne. Les jeunes gens qui lisent Rimbaud, généralement les parents voient ça d'un mauvais œil. Plus maintenant, parce que Dieu merci, ils savent que ça s'explique à l'université. Alors vous savez que les professeurs ont une espèce de génie pour désamorcer justement les pétards et, enlevant la poudre, les ranger dans des placards. Ensuite, ces pétards, les enfants peuvent jouer avec. Bon, c'est ce qu'on a fait avec l'œuvre de Rimbaud, qui reste profondément révolutionnaire, révoltée, qui se veut révoltante. Bon, si on l'enseigne dans les lycées et collèges, c'est qu'elle n'est plus révoltée ni révoltante. Sans ça, alors on aurait des pétards dans toutes les classes.
L'œuvre de Rimbaud, elle passe d'abord, n'est pas seulement dans le commerce et le voyage en Abyssinie, par la langue, par la littérature. Merveilleux linguiste parce que l'exigence de Rimbaud fait qu'il a porté la langue à un degré d'incandescence absolue, la langue française, avec la connaissance parfaite du latin. Et probablement, écoutez, aussi, par exemple, les poèmes de 1872, les poèmes de mai 72, c'est le moment où la langue française parvient à son plus haut degré de légèreté, de fluidité, de beauté. Et en effet, désormais que la langue française se trouve dans une époque soumise aux nouvelles technologies, il deviendra de plus en plus difficile d'accéder, non pas à la vie et l'œuvre de Rimbaud, qui est au fond facile et nous fait rêver, mais à la perfection de ce que Verlaine appelait les proses de diamant.
Merci à Alain Sancerny, Alain Borer, Edgar Morin, Claude Giancola, Kines White, Alain Tourneux, Abdourahmane Ouaberi, Kifley Selassie, José-Marie Bell, Charles Danzig et Philippe Solers. Lecture Hubert-Félix Thiéphen. Musique originale de Patrick Morgenthaler. Remerciements à Morgane Lepivert, François Vigneault et les films d'ici, au conservateur du musée Rimbaud de Charleville-Mézières, au directeur de la maison Rimbaud de Harar en Éthiopie et au directeur de la maison de la poésie à Paris. Prise de son, Pierrick Charles et Thomas Robin. Mixage, Alain Joubert. Archive, Virginie Leduo, en collaboration avec Marine Decamp de l'INA. Recherche discographique, Romain Couturier. Coordination, Irène Omelianenko. Attaché d'émission Christine Bernard et Alison Sinard. C'était Rimbaud, le roman de Harar, un documentaire coproduit par France Culture et France 3, réalisé par Jean-Michel Djian et Charles Drou pour Sur les Docks.